Imaginez un instant posséder le titre de propriété officielle d'une magnifique maison.
D'accord.
Sur le papier, le document est frappé du sceau de l'État. Tout est parfaitement en règle. Bref, cette maison est à vous.
Ouais, le scénario idéal, quoi.
Exactement. Sauf que, dans les faits, quelqu'un d'autre possède la seule clé de la porte d'entrée.
Ah, tout de suite, c'est moins idéal.
C'est ça. Et imaginez qu'un voisin autoritaire décide de ce qu'il y a dans vos placards de cuisine et qu'une entreprise, disons, située à 10 000 km de là, contrôle la température de votre chauffage.
C'est un vrai cauchemar logistique.
Et la question se pose inévitablement. Possédez-vous vraiment cette maison, au final ?
Bah, c'est une excellente façon de poser le problème. Parce que ce que décrit cette métaphore, en fait, c'est la différence vertigineuse entre la souveraineté sur le papier et la souveraineté dans la réalité.
Tout à fait.
On a très souvent cette vision rassurante d'une carte du monde, vous voyez, avec des frontières bien tracées, où chaque État serait le maître absolu chez lui. Mais l'exercice réel du pouvoir...
C'est beaucoup plus flou.
Exactement. C'est infiniment plus complexe qu'une simple ligne sur une carte.
Et c'est précisément le fil conducteur de cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, notre matériau de base, c'est une édition particulièrement dense du Grand Journal de l'Afrique.
Diffusée par Radio Tam Tam Africa, c'est bien ça ?
Ouais, l'édition datée du mardi 28 juillet 2026. L'idée de notre plongée dans ces sources, ce n'est pas de faire un simple catalogue de dépêches d'actualité.
Non, ça n'aurait pas grand intérêt pour notre audience.
Voilà. Il s'agit vraiment d'extraire la mécanique cachée derrière ces événements pour comprendre une dynamique globale, qu'il s'agisse de diplomatie, d'économie, d'alimentation ou même de technologie.
Toutes ces sources racontent en fait une seule et même histoire.
C'est clair. La quête acharnée d'un continent pour récupérer, ou du moins consolider, le contrôle de sa propre maison.
Sa propre souveraineté, oui.
Bon, décortiquons tout ça. Quelle est la base absolue de cette souveraineté, selon vous ?
Eh bien, il faut vraiment commencer par la fondation même du contrat social. Et ça, c'est la sécurité physique des populations.
C'est la base de la base.
Exactement. Pour comprendre ces dépêches, il faut réaliser qu'un État qui ne peut pas protéger ses propres citoyens, bah, il voit toute sa structure s'effondrer. C'est le prisme indispensable pour analyser les deux premières situations de notre source, qui nous viennent du Nigeria.
Et qui, mise côte à côte, crée une dissonance terrible, franchement.
Le contraste est saisissant, c'est vrai.
Parlons-en, parce que d'un côté, la source nous informe d'une tragédie à l'intérieur même des frontières nigériennes, dans l'état de Kaduna. Le village de Naridon a subi une attaque nocturne par des hommes armés.
Avec un bilan très lourd.
Ouais, le bilan rapporté est d'au moins 30 morts, dont 8 enfants. Les assaillants ont pu agir, incendier des habitations et simplement se retirer.
En toute impunité.
Voilà. Et les témoignages soulignent que les forces de sécurité ont mis plusieurs heures avant de pouvoir intervenir.
Un délai qui, en fait, dans ces zones rurales souvent isolées, bah, ça laisse les populations totalement livrées à elles-mêmes, face à des groupes extrêmement violents.
Et c'est ça qui est dingue, parce que dans la même édition du journal, on apprend qu'Abuja, la capitale nigérienne, déploie des efforts diplomatiques vraiment spectaculaires à des milliers de kilomètres de là.
En Afrique du Sud ?
Exactement. Le gouvernement a exigé de Pretoria qu'elle protège les migrants africains face à des vagues de xénophobie. Ils sont allés jusqu'à évacuer près de 1490 ressortissants nigériens suite à des violences qui ont fait au moins 4 morts.
Ce qui est fascinant ici, c'est le grand écart que cela impose à l'appareil d'État. On touche vraiment au concept de ce que les politologues appellent le monopole de la violence légitime.
Le fameux monopole, oui.
Voilà. Sur le papier, seul l'État a le droit d'utiliser la force pour garantir l'ordre.
Je vous arrête un instant parce que l'expression « monopole de la violence légitime », ça fait quand même un peu manuel de sociologie.
C'est vrai, c'est un peu académique.
Concrètement, si on enlève le jargon, ça veut dire quoi sur le terrain à Kaduna ?
Eh bien, concrètement, ça veut dire que si des groupes armés privés peuvent traverser un village, semer la mort et repartir sans rencontrer l'armée ou la police, l'État a tout simplement perdu ce monopole. Il ne contrôle plus son territoire.
Il n'y a plus de serrure à la porte de la maison, pour reprendre notre image.
C'est exactement ça. Et le paradoxe est là. Comment un État peut-il peser de tout son poids diplomatique face à une puissance comme l'Afrique du Sud pour exiger la sécurité de sa diaspora, alors qu'il est incapable de verrouiller la porte d'entrée de ses propres villages ?
Ça crée un vrai problème d'image.
Oui, la crédibilité politique s'effrite complètement.
Mais attendez, je pourrais me faire l'avocat du diable là-dessus. Affréter des avions pour rapatrier près de 1500 citoyens en danger, n'est-ce pas justement la preuve d'une diplomatie forte ? C'est un État qui protège les siens, non ?
Alors, c'est une réaction d'urgence logistique qui est louable, bien sûr. Mais ça reste une politique de réaction. pas de maîtrise.
Ah, je vois la nuance.
L'incapacité à garantir la sécurité de base crée un exode qui crée des diasporas vulnérables qui nécessitent ensuite des sauvetages diplomatiques complexes.
C'est un cercle vicieux.
Exactement. Et ce schéma de la gestion de l'urgence par défaut de gestion structurelle, c'est un mécanisme qu'on retrouve aussi tragiquement au niveau environnemental, comme le montre la suite de notre source.
Et la transition est douloureuse, franchement, car on passe de l'incapacité de protéger contre les vals à l'incapacité de protéger contre le climat.
C'est tout aussi mortel.
La dépêche suivante nous emmène en Ouganda, dans la région du Karamoja. Le journal rapporte une sécheresse d'une intensité terrible. Les récoltes ont échoué, le bilan fait déjà état de 19 décès liés directement à la faim et de centaines d'enfants touchés par la malnutrition.
Une urgence absolue, donc.
Absolue. Et face à cela, le gouvernement ougandais lance une opération d'environ 45 milliards de shillings pour distribuer 9 400 tonnes de nourriture sur 2 mois.
Si l'on relie cela à la situation globale de la souveraineté, c'est exactement la même mécanique que pour le défi sécuritaire au Nigeria. C'est vraiment l'illustration de la gouvernance par le pansement, plutôt que par le remède.
Mais là encore, je me dois d'intervenir. Distribuer 9 400 tonnes de nourriture, n'est-ce pas ? L'équivalent de mettre un simple pansement sur une fracture ouverte, oui. Mais quand la faim tue dans l'immédiat, on ne peut pas nourrir les gens avec un plan d'irrigation prévu pour dans 10 ans.
C'est évident.
Ces tonnes de nourriture sont vitales. Ne faut-il pas saluer le fait que l'État débloque ses fonds maintenant ?
Absolument. L'aide d'urgence est un impératif moral à l'instant T. On ne le remet pas en question. Le problème, ce n'est pas le déblocage des 45 milliards de shillings aujourd'hui. Le problème, c'est de savoir pourquoi la situation a atteint un tel point de non-retour, en fait.
Le manque d'anticipation.
Voilà. La vraie souveraineté alimentaire d'une nation face à un climat qui change, elle ne réside pas dans sa capacité à livrer des sacs de riz quand la catastrophe est déjà là.
Bien sûr.
Elle se construit en amont. Quelles semences résistantes à la sécheresse ont été développées ? Quelles infrastructures de retenue d'eau ont été bâties ? Sans ça, le pays reste à la merci de la prochaine absence de pluie. Il est condamné à répéter ce cycle ruineux d'urgence humanitaire.
Ce manque d'anticipation, ou même de transparence dans la gestion des ressources naturelles, c'est un vrai fil rouge dans ce journal. Et ça nous mène directement en République démocratique du Congo.
Où là, il ne s'agit pas d'agriculture, mais d'extraction minière.
Oui, d'extraction de richesses. Human Rights Watch a publié des accusations graves contre Perenco, l'unique producteur du pays, qui opère près de Mwanda.
C'est un dossier très complexe, qui mêle à la fois écologie, économie et santé publique.
Pour comprendre un peu la mécanique de ce qui est dénoncé, le rapport de l'ONG pointe du doigt la pratique du torchage de gaz, parfois à moins de 80 mètres des habitations.
Le torchage, oui, c'est une pratique très controversée.
Alors, pour ceux qui nous écoutent, le torchage, c'est ce procédé où l'on brûle le gaz naturel qui remonte en même temps que le pétrole, souvent parce que c'est moins cher que de le capter pour le réutiliser. Sauf que les habitants se plaignent d'une augmentation des maladies respiratoires.
Ce qui est malheureusement fréquent près de ces sites.
Et là où l'histoire devient sidérante, ce n'est pas juste l'acte d'extraction en lui-même. C'est que les autorités congolaises ont commandé un grand audit environnemental en 2024.
Et refusent catégoriquement d'en publier les résultats.
Exactement, le silence radio total.
Précisons tout de même, pour être rigoureusement fidèle aux informations rapportées par la source, que l'entreprise Perenco réfute formellement ces accusations de pollution généralisée.
Oui, c'est important de le souligner.
Ils contestent la méthodologie employée par l'ONG, c'est leur position officielle.
Tout à fait, c'est mentionné noir sur blanc par la source, on rapporte juste les deux côtés. Mais indépendamment de cette bataille d'experts sur les chiffres de pollution, pourquoi un État choisit-il l'opacité ? Je veux dire, pourquoi cacher les données de l'air que respire sa propre population ?
Cela soulève une question importante sur la nature de ce qu'on appelle l'État rentier.
C'est-à-dire ?
Souvent, la manne financière immédiate générée par l'exploitation pétrolière, donc les taxes, les royalties, tout ça, ça prime sur le coût sanitaire et environnemental à long terme.
L'argent d'abord, la santé ensuite.
En quelque sorte, l'opacité autour de cet audit de 2024 permet de maintenir un statu quo financier. Mais c'est une vision extraordinairement court-termiste de la souveraineté. Refuser la transparence environnementale, en fait, c'est hypothéquer la santé de son capital humain de demain, juste pour sécuriser le budget d'aujourd'hui.
Et justement, cette gestion à courte vue des ressources, qu'il s'agisse de la terre ougandaise qui s'assèche ou du sous-sol congolais exploité dans l'opacité, ça se traduit irrémédiablement par une dépendance économique féroce.
C'est le corollaire inévitable.
Et c'est là qu'on aborde le volet le plus lourd de ce journal, les finances.
Nous avons une succession de dossiers qui montrent à quel point l'indépendance économique est un parcours du combattant.
Ah, ça, l'architecture économique mondiale est conçue de telle sorte que s'en extraire, ou même juste s'y adapter à son avantage, ça requiert une ingénierie extrêmement fine.
Prenons le cas du Cameroun. Ils viennent de recevoir ce qu'on peut carrément appeler une facture cataclysmique.
Le mot n'est pas trop fort.
L'entreprise minière australienne Sundance Resources vient de remporter un arbitrage international. Le résultat zut, l'État camerounais est condamné à payer environ 616 millions de dollars suite au retrait des droits de l'entreprise sur le gigantesque gisement de fer de Mbalam Nabeba.
Plus d'un demi-milliard de dollars.
Pour un minerai qui est toujours dans le sol.
Comment un tribunal situé à l'étranger peut-il avoir le pouvoir d'imposer une telle amende à un État souverain pour une décision prise sur son propre territoire?
Il faut regarder la mécanique juridique de ce qu'on appelle les traités d'investissement bilatéraux.
Ah, ces fameux traités. Oui, dans les années 90 et 2000, pour attirer les capitaux étrangers, de nombreux pays en développement ont signé des contrats incluant des clauses d'arbitrage international.
Pour rassurer les investisseurs.
Exactement. L'idée, c'était de leur dire, écoutez, en cas de litige, ce ne sont pas nos tribunaux locaux qui jugeront, mais une cour internationale neutre.
Donc, c'est un peu comme inviter quelqu'un à jouer une partie d'échecs chez soi, mais accepter d'avance que les règles du jeu, l'arbitre et même le montant de l'amende en cas de faute soient définis par une entité privée complètement extérieure.
C'est une métaphore très pertinente, vraiment. Le Cameroun se retrouve pris au piège de clauses qu'il a lui-même acceptées à l'époque.
C'est terrible.
Ce mécanisme démontre que la richesse géologique brute d'un pays ne garantit aucune puissance économique si les contrats initiaux créent une asymétrie juridique. La souveraineté est littéralement vampirisée par le droit des affaires internationales.
Et pendant ce temps, le Ghana offre une dynamique en apparence très différente. La source nous indique que le FMI, le Fonds monétaire international, vient de débloquer 371 millions de dollars pour Accra.
Oui, une étape cruciale pour le pays.
Ce versement marque la fin d'un vaste programme d'aide de 3 milliards de dollars. En lisant ça, franchement, on pourrait se dire « génial, le Ghana a fini sa thérapie, ils sont guéris, ils reprennent le contrôle total de leur économie ».
On pourrait se le dire, oui.
Mais j'imagine que la réalité des marchés financiers est un peu plus nuancée, non ?
La nuance est de taille, en effet. Sortir d'un programme du FMI, c'est un peu comme quitter l'unité des soins intensifs de la finance internationale.
D'accord. On respire seul, mais on reste fragile.
Exactement. Le pays retrouve une liberté de manœuvre officielle. Mais il entre immédiatement sous la surveillance stricte d'un autre acteur, les marchés obligataires privés.
Les fameux marchés.
Eh oui, si le Ghana dérape budgétairement, ses investisseurs internationaux exigeront des taux d'intérêt exorbitants pour lui prêter de l'argent, ce qui asphyxierait le pays tout aussi sûrement que les conditionnalités du FMI.
Donc c'est juste un transfert de tutelle, en fait.
Tout à fait, d'une institution publique mondiale vers le verdict implacable du marché privé.
Et face à ces pressions extérieures, qu'elles viennent des tribunaux d'arbitrage comme pour le Cameroun ou des marchés obligataires pour le Ghana, l'Égypte adopte une troisième stratégie, radicalement opposée. Le repli et la concentration maximale.
C'est un modèle très particulier, oui.
La source évoque une nouvelle loi qui modifie le statut de Future of Egypt. C'est une autorité économique tentaculaire, vraiment, qui est liée à l'armée. Et elle est désormais placée sous le contrôle direct de la présidence égyptienne. On parle d'une entité qui gère des millions de tonnes de blé, l'immobilier, les grands projets énergétiques.
Une vraie pieuvre économique. Ce qui est en jeu en Égypte, c'est la redéfinition de l'économie de marché par le prisme de la sécurité nationale.
C'est-à-dire ?
Le pouvoir central verrouille toute velléité d'influence extérieure. C'est une façon de dire, ici, on contrôle tout en interne.
Mais n'est-ce pas un remède pire que le mal pour l'économie réelle ? Je veux dire, si l'armée contrôle tout, de la production de farine jusqu'à la construction d'immeubles, comment une petite ou moyenne entreprise civile peut-elle espérer être compétitive ?
Eh bien, elle ne le peut pas, et c'est bien la limite tragique de ce modèle.
Ça étouffe l'initiative.
Complètement. L'Égypte s'achète une indépendance de façade, une sorte de forteresse économique, mais au prix de l'innovation, de la libre concurrence et de l'emploi civil. C'est vraiment une économie sous cloche.
Heureusement. Ces dépêches ne montrent pas que des situations bloquées. Il y a des pays qui déploient une véritable ingéniosité pour contourner ces dépendances structurelles. Penchons-nous sur le Malawi, par exemple.
Une excellente illustration de pragmatisme, oui.
Le défi quotidien là-bas, ce sont les coupures d'électricité récurrentes, aggravées par une production hydroélectrique qui souffre du changement climatique. Et la solution qu'ils ont trouvée, ce n'est pas une nouvelle centrale géante.
Non, c'est beaucoup plus flexible.
c'est l'installation à Lilongwe d'une énorme batterie solaire. On parle de 20 MW de puissance et 40 MWh de capacité. C'est comme s'ils achetaient une batterie externe géante pour la ville.
C'est un changement de paradigme fondamental dans la gestion énergétique africaine.
Juste pour que la mécanique soit claire pour tout le monde, la puissance de 20 MW, c'est la force avec laquelle l'électricité peut être envoyée dans le réseau. Mais les 40 MWh de capacité, c'est ce qui change tout en fait.
C'est le réservoir.
Voilà. Et l'objectif déclaré par le gouvernement, c'est de diviser par deux la durée des coupures de courant quotidiennes, en passant de 4 heures à moins de 2 heures.
L'enjeu est colossal. Produire de l'énergie solaire en pleine journée ne garantit pas la stabilité d'un réseau quand la nuit tombe ou qu'un simple nuage passe.
D'où l'importance de la batterie.
Le stockage, c'est la véritable clé de voûte de la souveraineté électrique. Une batterie à l'échelle d'une ville permet de lisser les pics de demande, d'absorber les chocs climatiques sur la production hydroélectrique.
Et ça redonne de la prévisibilité à l'économie locale. Un artisan ne peut pas faire tourner son atelier s'il ne sait jamais quand le courant va couper.
Exactement. C'est s'émanciper des faiblesses de la nature grâce à l'infrastructure.
Et dans la foulée, l'Angola nous démontre comment s'émanciper des faiblesses du système financier mondial grâce, cette fois, à l'infrastructure régionale. La source nous indique que la monnaie angolaise, le kwanza, intègre le système de paiement régional de la SADC.
La Communauté de développement de l'Afrique australe.
C'est ça.
Il faut bien comprendre la mécanique bancaire traditionnelle pour mesurer l'importance de cette nouvelle. Historiquement, à cause de ce qu'on appelle les banques correspondantes,
qui sont souvent basées en Occident.
Oui. Eh bien, si un entrepreneur à Luanda, en Angola, voulait acheter des marchandises à Pretoria, en Afrique du Sud, son argent devait faire un voyage absurde.
Du genre ?
Les fonds étaient souvent convertis en dollars, transitaient virtuellement par des serveurs à New York ou à Francfort avant d'être reconvertis en rand sud-africain.
Avec, j'imagine, des frais de conversion et des commissions prélevées à chaque étape par ces banques occidentales.
Précisément. Une perte de valeur sèche pour le continent. Intégrer le kwanza au système de paiement régional, cela permet d'organiser les transactions directement, de banque centrale à banque centrale, en devise locale.
C'est brillant.
C'est une révolution discrète mais redoutable. L'Angola fluidifie le commerce de ses entreprises tout en coupant le cordon ombilical coûteux avec le réseau bancaire de l'hémisphère nord.
Et si l'Angola utilise l'intégration financière régionale pour contourner l'hégémonie occidentale, on constate dans notre dernière source que le continent n'hésite pas non plus à pirater les outils technologiques mondiaux pour imposer sa propre voie.
Un terrain d'affirmation inattendu, en effet.
Voici où cela devient vraiment intéressant. La dépêche finale nous transporte au Kenya. L'UNESCO et l'Université Kenyatta viennent de publier une version de la Charte internationale de l'éducation physique et du sport.
Entièrement kiswahili.
Mais la manière de le faire est fascinante. Ils ont combiné l'expertise d'enseignants avec l'intelligence artificielle pour réaliser cette traduction qui devient du coup accessible à plus de 250 millions de locuteurs. C'est génial. L'IA est systématiquement critiquée pour être un rouleau compresseur culturel, entraîné sur des données en anglais qui effacent les nuances locales.
C'est le reproche habituel, oui.
Et là, c'est l'inverse. C'est un algorithme utilisé comme arme de souveraineté linguistique massive pour rendre des textes politiques accessibles.
L'utilisation de cet outil est effectivement un renversement stratégique de premier plan. Le Kiswahili a un statut majeur reconnu par l'Union africaine et plusieurs communautés régionales.
C'est une langue d'envergure.
Complètement. Pouvoir injecter des concepts complexes de politique publique internationale directement dans cette langue via la technologie, ça prouve que l'espace numérique africain n'est pas condamné à être un simple réceptacle passif d'idéologies exogènes.
C'est une belle victoire symbolique.
Néanmoins, il faut garder une certaine distance critique face à l'enthousiasme technologique.
Vous voulez dire que le travail ne s'arrête pas une fois que l'algorithme a généré le texte PDF ?
Exactement. La traduction assistée par ordinateur résout le problème de l'accessibilité initiale. Mais la souveraineté intellectuelle, elle, ne s'accomplit que par l'usage social.
L'application sur le terrain.
Voilà. Cette charte en Kiswahili va-t-elle être intégrée dans les programmes de formation des instituteurs à Nairobi ou à Dar es Salaam ? Va-t-elle influencer la manière dont on conçoit l'inclusion par le sport dans les provinces reculées ? L'IA ouvre la porte, mais seule la volonté politique permet de franchir le seuil.
L'outil reste subordonné à l'humain. C'est un rappel nécessaire. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au terme de notre parcours ?
Une vaste question.
Nous avons vu l'exigence vitale de sécuriser un village à Kaduna face au délitement de l'État. L'impératif de développer des capacités agricoles à long terme en Ouganda pour ne pas dépendre de la charité d'urgence. Le besoin de sortir de l'opacité extractiviste à Mwanda pour protéger la santé publique.
Et la finance, bien sûr.
Oui, la nécessité impérieuse de contourner les dettes arbitrales comme au Cameroun ou d'optimiser l'énergie solaire au Malawi. À travers ces 10 dépêches, le constat est saisissant. La carte politique du continent est immobile, mais sa véritable souveraineté est un muscle qui se construit ou s'atrophie chaque jour dans les moindres rouages de la société.
Si l'on souhaite prolonger la réflexion qui découle de ces sources, on peut imaginer un horizon très proche. Nous avons vu le Kenya utiliser l'IA pour démocratiser l'accès à la politique par le langage.
Oui.
Eh bien, pensons à la prochaine évolution de ces outils dans la main des citoyens. Que se passerait-il demain lorsque des chercheurs indépendants utiliseront ces mêmes intelligences artificielles pour analyser en direct l'imagerie satellite et calculer publiquement les niveaux réels de pollution qui sont aujourd'hui gardés secrets en RDC?
Ah oui, le retournement de l'outil.
Exactement. Ou lorsque des algorithmes permettront de cartographier la mainmise exacte de l'armée égyptienne sur l'économie civile à partir de données ouvertes. La grande ironie à laquelle nous assistons, c'est que la technologie, souvent perçue comme un outil de surveillance par l'État, pourrait bien devenir l'instrument par lequel la transparence s'imposera brutalement à des pouvoirs qui refusent aujourd'hui de la concéder.
Voilà une perspective fascinante sur l'inversion des rapports de force. La transparence et le contrôle imposés par le bas, grâce à la technologie.
L'avenir nous le dira.
L'analyse de cette édition de l'actualité africaine démontre clairement qu'une ligne tracée sur une carte ne suffit plus. La liberté de décider de son propre destin se gagne pied à pied, que ce soit devant un tribunal international, à l'autre bout du monde, ou dans les lignes de code d'un outil de traduction. L'exploration de ces rouages s'arrête ici pour aujourd'hui. Gardez l'esprit critique, interrogez la mécanique cachée derrière chaque information et ne tenez jamais la souveraineté pour acquise.